Chapitre 7. Virginie est de retour. Le temps passait, et petit à petit, une nouvelle rumeur commençait à courir sur l'île. Virginie serait de retour. Paul était si heureux. Il était convaincu que Virginie n'avait plus écrit simplement parce qu'elle allait arriver, et il fallait si peu de temps pour venir d'Europe. Il parlait déjà des surprises qu'il lui ferait quand elle serait sa femme. Oui, sa femme. Puis, le lendemain, voyant que Virginie n'était toujours pas là, tout son enthousiasme s'effondrait. Il pensait tout le contraire de la veille. Il ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas donné de nouvelles. Il était désormais persuadé qu'elle s'était mariée avec un homme plus riche et qu'elle ne reviendrait jamais. Il était à nouveau désespéré. À l'aube du 24 décembre 1744, Paul vit en se levant un pavillon blanc sur la montagne de la Découverte. Ce pavillon signifiait qu'un vaisseau avait été aperçu en mer. C'était sans doute celui de Virginie. Il se mit alors à courir vers le port, dans l'espoir d'avoir plus d'informations. Il y resta jusqu'au soir et apprit finalement que le bateau signalé était le Saint-Géran et qu'il n'arriverait au port Louis que le lendemain dans l'après-midi. Ce même jour, le gouverneur lui remit une lettre à l'attention de Madame de la Tour. C'était Virginie, Paul en était sûr, et elle allait annoncer son retour. Il se précipita vers l'habitation en serrant fort la lettre contre son cœur et en l'embrassant. Tout le monde se rassembla autour de Madame de la Tour, qui commença à la lire à voix haute. Virginie racontait à sa mère que sa tante ne prenait plus autant soin d'elle, qu'elle avait voulu la marier de force, l'avait déshéritée, puis renvoyée vers l'île de France en pleine saison des ouragans. À peine la lettre fut lue, que toute la famille, transportée de joie, s'écria « Virginie est de retour !» Maîtresse et serviteurs s'embrassèrent, et Madame de la Tour dit à Paul « Mon fils, allez prévenir notre voisin de l'arrivée de Virginie. » Il devait être 10 heures du soir quand Paul arriva chez moi pour m'annoncer la nouvelle. « Virginie est de retour. Allons au port. Le vaisseau y mouillera à l'aube. » Accompagnés de Domingue, nous nous mîmes aussitôt en route. Un noir nous suivait dans notre course. « D'où viens-tu et où te rends-tu ainsi ?» lui demandai-je. « Je viens du quartier de l'île appelé la Poudre d'Or. On m'envoie au port pour avertir monsieur le gouverneur qu'un vaisseau de France est mouillé sous l'île d'Ambre. Il tire des coups de canon pour demander du secours, car la mer est très mauvaise. » Allons vers le quartier de la Poudre d'Or, au-devant de Virginie, proposai-je alors. Plus nous nous approchions de la Poudre d'Or et de la mer, et plus le temps était mauvais. La nuit était d'un noir intense, et les éclairs, qui traversaient le ciel, illuminaient de lourds nuages. Au loin, il nous semblait même entendre le tonnerre, mais il s'agissait en réalité des coups de canon du bateau en difficulté. Ces coups de canon me firent frémir, car je pensais à Virginie qui était sans doute sur ce bateau. Une demi-heure plus tard, le vaisseau n'envoyait plus de signaux et nous commencions à nous inquiéter. Une fois arrivés au quartier de la Poudre d'Or, vers minuit, nous fûmes frappés par la violence des vents qui venaient de la mer. Une tempête s'abattait sur l'île. À quelques mètres de distance, nous vîmes à l'entrée du bois un feu autour duquel s'étaient rassemblés plusieurs habitants. Nous nous joignîmes à eux et un de ces habitants nous raconta qu'il avait vu, plus tôt dans l'après-midi, un vaisseau en pleine mer poussé vers l'île par les vents. Avec l'arrivée de la nuit, il l'avait perdu de vue, mais 2 heures après le coucher du soleil, il avait entendu tirer des coups de canon. Malheureusement, la mer était si mauvaise qu'aucun bateau n'avait pu être envoyé à son secours. Les habitants connaissaient bien la mer et chacun avait une idée de ce qui allait se passer. Pour certains, le bateau resterait coincé entre la terre et l'île d'Ambre et il ne résisterait pas au vent. Pour d'autres, ce lieu était un lieu sûr et le bateau n'avait qu'à attendre la fin de la tempête pour sortir. Alors qu'ils discutaient, Paul restait en silence, inquiet. Vers 7 heures du matin, M. de La Bourdonnais arriva accompagné de soldats et d'un grand nombre d'habitants pour venir en aide au vaisseau. Ils se mirent à tirer un coup de canon pour signaler leur présence. Le bateau répondit de la même manière et on put enfin se rendre compte de la distance qui nous séparait. Le Saint-Gérand n'était pas en pleine mer, il était presque accessible et nous nous dirigeâmes tous en sa direction. Le gouverneur ordonna d'allumer plusieurs feux sur la plage pour guider le vaisseau et demanda aux habitants de ramener de la nourriture, des planches, des câbles et des tonneaux vides. Un des habitants s'approcha du gouverneur et lui dit « Monsieur, dans les bois, les feuilles des arbres bougent alors qu'il n'y a pas de vent et les oiseaux de mer se réfugient sur terre. Tous ces signes annoncent un ouragan. » « Eh bien, répondit le gouverneur, nous y sommes préparés, et le vaisseau l'est sûrement aussi. » Et en effet, vers 9 heures, on entendit un bruit épouvantable. Le tonnerre s'abattit sur l'île. Tout le monde s'écria « Voilà l'ouragan !» Et en un instant, un tourbillon de vent emporta la brume qui couvrait l'île d'Ambre et son canal. Le Saint-Gérand était désormais parfaitement visible, bloqué dans les récifs entre l'île d'Ambre et l'île de France, avec tous ses passagers sur le pont. Dans cette position, le bateau ne pouvait ni repartir en arrière, ni continuer son chemin. Les vents de plus en plus forts et les vagues de plus en plus hautes commençaient à casser la structure du vaisseau. Les câbles qui maintenaient le bateau se brisèrent, et comme il n'était plus retenu que par un fil, il fut projeté sur les récifs. Tout le monde se mit à crier, et Paul, qui était sur le point de se jeter à la mer pour secourir Virginie, s'élança. Je le saisis par le bras en criant. « Mon fils, lui dis-je, vous voulez mourir ? Il faut que j'aille la secourir » cria-t-il. Paul ne raisonnait plus, et pensait que s'il ne risquait pas sa vie, c'est Virginie qui allait mourir. Il se précipita vers la mer, tenta de nager vers le Saint-Gérand, mais la violence de l'ouragan le ramenait toujours vers le rivage, à bout de force, les jambes en sang, la poitrine meurtrie et à demi noyée. À peine avait-il retrouvé ses esprits et repris des forces qu'il se précipitait à nouveau en direction du bateau. C'est alors qu'on vit au devant du Saint-Gérand une demoiselle tendant les bras vers Paul. C'était Virginie. Elle nous faisait signe de la main, comme pour nous dire adieu. Un matelot avait sauté à la mer pour sauver Virginie, mais la jeune fille était si effrayée par les vents et par les vagues qu'elle refusa le secours du matelot. Sur le rivage, on entendait les habitants crier « Sauvez-la ! Ne l'abandonnez pas !» Mais c'est à ce moment qu'une montagne d'eau s'engouffra entre l'île d'Ambre et la côte et s'avança vers le vaisseau. En voyant la montagne d'eau arriver, le matelot s'élança seul à la mer pour s'échapper. Quant à Virginie, elle posa une main sur ses habits, puis l'autre sur son cœur, et se laissa engloutir. Elle leva les yeux au ciel et parut ainsi un ange qui prend son envol. Une seconde plus tard, le bateau et Virginie avaient disparu sous les eaux.